Il est 9h40 et c'est un démarrage en trompe pour l'instant.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Une poignée d'amendements glissés en catimini dans un texte examiné en ce moment même au Sénat. L'idée, était d'agir enfin sur le dénigrement dont n'importe qui peut être victime sur Internet. Le résultat, c'est que les journalistes vont se retrouver sous le coup de procès d'un nouveau genre pour des infractions qui n'existent pas dans la loi et au nom desquelles ils auront à rendre des comptes ad vitam aeternam. Haro sur la liberté de la presse. Bonjour Christophe Bigot.
Bonjour.
Maître, vous êtes avocat, vous défendez au tribunal les reporters, les éditorialistes, les dessinateurs et les médias qui les éditent. On va voir ensemble qu'un texte en apparence technique et anodin peut avoir des conséquences très concrètes et franchement ravageuses. D'abord, un œil sur l'actu des médias et puis aussi sur l'actu des séries. Salut à toi, Romain Nigita.
Bonjour Sonia de Villers.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Je serai votre consultant en assassinat. Yo, vous voulez réussir un meurtre parfait? Il faut que ça ait l'air d'un accident.
J'interviens pas pendant le braquage. Je porte pas d'armes. Je conduis.
C'est son destin, son pouvoir, sa malédiction. Qui est-ce? Garfield.
Garfield. Cdiscount, c'est un site d'achat en ligne qui appartient au groupe Casino et qui lance ses streams. Pour une dizaine d'euros par mois, une offre culturelle globale. Une sorte de jukebox que vous pouvez imaginer sur votre écran, sur lequel vous pourrez piocher indifféremment du livre numérique, de la musique, des séries, des films ou des titres de presse comme Paris Match, Le Figaro. Là, je vois notre invité qui dit « c'est le début des problèmes ». Tout dépendra évidemment des accords de la plateforme avec les studios, avec les éditeurs et les producteurs, pour savoir si le catalogue sera à la hauteur. Mais ça fait réfléchir. Et évidemment, Romain, ça fait écho dans cette révolution à un grand modèle américain qui s'appelle Amazon et qui fonctionne déjà exactement comme ça aux États-Unis.
Oui, parce qu'Amazon propose déjà des séries télé sur sa plateforme américaine ou anglaise et peut-être bientôt en France, ça se murmure. Ils ont les séries de
ça se murmure, ça s'annonce même carrément franchement qu'Amazon va arriver en France avec une offre culturelle de la série, du film.
C'est pas encore tout à fait officiel, mais oui, c'est un secret de polichinelle. Mmh. Et ils se gardent notamment une série qui s'appelle Mine in the High Castle, qui est l'adaptation du Maître du Haut Château de Philip K. Dick, qui est une série fabuleuse, et ils se sont bien gardés de la vendre à d'autres chaînes pour pouvoir la diffuser eux-mêmes en France.
Pour pouvoir se la garder. Et puis on peut rappeler que Amazon, c'est du texte aussi, puisque c'est une liseuse qui s'appelle
Kindle.
Voilà, et qui dispose d'un vaste catalogue. Alors, votre sujet du jour, Romain, c'est cette déferlante de séries télé inspirée directement du cinéma. Westworld a débuté lundi sur OCS en France, en diffusion 24 heures après HBO aux États-Unis.
Alors Westworld, c'est l'adaptation particulièrement réussie du non moins excellent Monde Ouest, un film de science-fiction écrit et réalisé en 1973 par Michael Crichton, le Crichton qui 20 ans plus tard écrira Jurassic Park et créera même la série Urgence. Mais là c'est une série produite par J.J. Abrams et au générique de laquelle on retrouve quand même Anthony Hopkins et Ed Harris, c'est pas rien.
Quand même. Alors de quoi ça parle Westworld, puisque moi ça avait complètement échappé à mes radars en 1973.
Alors en fait, dans le film comme dans la série, on retrouve l'idée d'un parc d'attractions futuriste dans lequel les visiteurs peuvent épancher sur des androïdes toute leur soif de violence et même leurs fantasmes. Alors le film dépeignait la révolte des robots qui était menée par un cow-boy mécanique incarné par l'acteur Yul Brynner. Mais la série prend elle le temps de montrer l'éveil à la conscience de ces créatures synthétiques. C'est vraiment une réflexion sur la place de l'humain face à l'intelligence artificielle qu'il a lui-même créée.
Voilà, et cette année ça n'arrête pas les adaptations du cinéma sur petit écran.
Ah, il y en a des tonnes, et la plus attendue, parce que si la plus redoutée c'est L'Arme Fatale. Alors on peut déjà la voir en France sur MyTF1 VOD. On retrouve exactement le même duo de flics avec le chien fou suicidaire d'un côté et le père de famille tranquille de l'autre. Mais évidemment, ce ne sont plus Mel Gibson et Danny Glover, ce sont deux autres acteurs, Glenn Crawford et Damon Wayans. Et c'est là la bonne surprise, c'est ce tandem qui fonctionne assez bien. Par contre, leurs enquêtes policières sont vraiment banales pour l'instant.
C'est quand même dur de battre Mel Gibson et non.
Ah bah là, le petit nouveau est vraiment pas
c'est
mal.
C'est vrai. Bon, d'accord. Mel Gibson, par ailleurs, il est persona non grata au cinéma. Hein. C'est pour ça qu'on...
Il commence un petit peu à revenir par des séries B, mais ça a mis un petit moment.
Ma daughter. Catherine, she's back from college. She's different. There are things going on in the house, in my house, there are voices inside the walls.
Mom?
I am not a crazy person.
I'm not saying you're crazy.
There is something inside my house. It's a demon.
Ça, vous voyez vraiment, ce sera sans moi.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est l'actrice Gina Davis dans la version série télé de L'Exorciste.
Voilà.
L'adaptation du célèbre roman et surtout du célèbre film d'horreur de William Friedkin. Elle joue le rôle de la mère de famille dont la fille est possédée par le démon. Et contre toute attente, eh bien, les premiers épisodes sont loin d'être ridicules. Mais en tout cas, le point commun entre L'Arme fatale et L'Exorciste, c'est que ce sont des concepts totalement rincés. L'Exorciste avait quand même eu droit à 5 films au cinéma.
Et 4 pour L'Arme fatale.
Donc en fait, ce sont vraiment leurs titres qui sont d'incroyables leviers marketing et qui créer l'effet de curiosité, en tout cas sur le premier épisode.
Et alors tout ça n'est pas très récent, parce qu'en réalité Westworld a déjà eu une version télé en 1980, 5 épisodes, et c'était la suite de toute une tradition à l'américaine.
Exactement, ça a commencé quasiment en même temps que la télévision, puisque dès 1955, les Américains ont pu voir une très brève série adaptée de Casablanca. Il y avait une deuxième tentative en 83, tout aussi ratée, avec David Soul, le Hutch de Starsky et Hutch quand même.
Franchement, à la place d'Humphrey Bogart.
Exactement. Ça n'a pas duré longtemps.
Non,
en 62, le film de Frank Capra, Monsieur Smith au Sénat, a eu droit à sa série télé, avec en lieu et place de James Stewart, l'acteur de Fess Parker, qui était le héros de Davy Crockett.
Eh oui. Catastrophe.
En 64, la série de science-fiction Voyage au fond des mers était en fait la suite du film d'Irwin Allen, Le sous-marin de l'apocalypse, qui était sorti 3 ans plus tôt. Après, on peut citer pêle-mêle les adaptations de Fame, Dans la chaleur de la nuit, Robocop, Les sept mercenaires, Indiana Jones, Stargate, Highlander, Evil Dead. Même le film de Martin Scorsese, Alice Doesn't Live Here Anymore, a été adapté, Bagdad Café aussi, et même en France, Les Revenants étaient basés sur un film.
Ah oui,
tout à fait.
Au départ, c'était du cinéma. Bon.
Un film un peu passé inaperçu.
C'est ça, oui, un film un peu passé inaperçu, parce que parfois les séries surpassent le modèle original sur grand écran.
Ah bah c'est le cas notamment de la série MASH aux États-Unis, la série qui a duré 11 saisons a totalement éclipsé le film de Robert Altman, et le dernier épisode en 83 avait fait vraiment un record d'audience à l'époque. Dans un genre complètement différent, la série Buffy contre les vampires a été l'occasion pour le scénariste Joss Whedon de se venger en beauté du film grotesque qui avait été réalisé sans lui à partir de son scénario quelques années avant. Et puis surtout, plus récemment, il y a la série Fargo. Avec cette série, le showrunner Noah Hawley a réalisé l'impensable. Il a réussi à adapter l'univers et l'esprit des frères Coen sans aucune faute de goût. Les deux premières saisons sont de vrais bijoux et moi j'attends avec grande impatience la saison 3.
Et ça se voit où et comment ça?
En France, Fargo, on peut la voir sur Netflix.
Sur Netflix, merci Romain. On va parler liberté d'expression et liberté d'enquêter, d'éditorialiser et de publier.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Maître Christophe Bigot, vous êtes l'invité de l'Instant M aujourd'hui. Projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté dans son intitulé. On ne s'y attendait pas. Décidément, il est plein de surprises, ce projet de loi, parce que il n'arrête pas de créer des remous, notamment pour une poignée d'amendements concoctés par deux sénateurs, l'un issu des Républicains et l'autre du PS. D'abord passé complètement inaperçu, puis le réveil a été brutal. Les syndicats de la presse de quotidienne nationale, régionale, de la presse magazine, de la presse en ligne se sont mobilisés pour alerter toute la profession. Le Monde, Le Point, Mediapart se sont penchés sur le dossier. Et puis il y a eu lundi cet édito de Laurent Geoffrin dans Libération. Sénat scélérat. Il y a de quoi pour vous? Tous les fondements de la loi de 1981, qui est clé, qui est vraiment le pilier du droit de la presse en France, sont directement menacés.
Oui, absolument. Cette affaire est grave et c'est quand même un peu un cauchemar législatif. On s'est retrouvé à découvrir par hasard que deux sénateurs en catimini avaient fait voter par une commission spéciale au Sénat des amendements qui remettent en cause une loi qui est absolument un des piliers de la République. Faut rappeler ici que le Conseil constitutionnel considère que la liberté d'expression, c'est la première des libertés fondamentales, puisqu'elle va conditionner toutes les autres. Et on a une entreprise qui consiste à remettre en cause tout le régime de la liberté d'expression sans la moindre concertation avec ceux qui sont quand même les premiers intéressés, qui sont les médias. Alors, c'est pas du tout un aménagement technique de la loi sur la presse. C'est vraiment la remise en cause de la philosophie même du droit de la liberté d'expression.
Alors on va y aller vraiment concrètement. Jusqu'à présent, les infractions pour lesquelles un journaliste peut être condamné en justice sont très précises. Par exemple, la diffamation. C'est quoi la diffamation?
Voilà, la diffamation, c'est accuser quelqu'un d'avoir commis un fait qui est contraire à l'honneur.
D'accord, c'est l'injure. Simple.
L'injure, en revanche, c'est une invective, c'est un terme de mépris.
D'accord. Alors, avec cette loi, d'après ce que je comprends, moi, un particulier, une association, une organisation internationale, une petite entreprise ou une multinationale peut attaquer un reportage, une émission de radio, un article de presse, etc., etc., tout simplement parce qu'il s'estime lésé. Ça veut dire quoi, maître, concrètement ?
Eh ben, ça veut dire que demain, c'est le juge qui va décider ce que l'on a droit de dire et d'écrire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est l'arbitraire du juge, sa subjectivité, son idéologie, qui va décider quand il y aura une faute ou quand ce sera pas fautif.
Donc, en fait, ça va créer plein de nouveaux délits de presse.
Voilà, plein de nouveaux délits de presse. C'est-à-dire que la liste est en réalité infinie. Hein. On pourra toujours en rajouter et ce sera pas le législateur qui décidera des cas dans lesquels la liberté de l'information est limitée, mais ce sera le juge au gré des époques et au gré de ses humeurs.
Sauf qu'en fonction des jugements qui vont être rendus, ça va créer des jurisprudences.
Absolument, ça va créer des jurisprudences. On va avoir, alors je sais pas, on peut prendre des exemples simples. Par exemple, aujourd'hui, parce que on doit se situer dans le champ de la loi sur la presse, toutes les initiatives qui ont consisté à tenter d'imposer un délit de blasphème ont échoué. Hein. Pendant un moment, il y a eu la hiérarchie catholique qui avait essayé de faire juger que l'atteinte aux convictions religieuses était une faute. Bon, la Cour de cassation aujourd'hui dit non, c'est pas prévu par la loi sur la presse, ce n'est
pas
une faute.
Il n'y a pas de délit de blasphème dans la loi française.
Voilà. Demain, un juge pourra dire si l'atteinte aux convictions religieuses, c'est une faute. J'ai le droit de le dire puisque aujourd'hui le législateur me permet de décider ce qui est une faute et ce qui n'en est pas.
Alors il y a peut-être aussi des choses peut-être moins spectaculaires que celles que vous citez, maître. Mais quand on parle de bashing, par exemple, on a parlé du Hollande bashing, mais ça peut s'appliquer à toutes sortes de personnalités. Est-ce qu'on peut attaquer des titres de presse pour bashing, c'est-à-dire pour une forme de harcèlement journalistique péjoratif aujourd'hui ?
En aucune manière. Le péjoratif aujourd'hui n'est pas condamné par la loi. Hein, et la répétition de propos péjoratifs ne l'est pas plus. Demain, on pourra très bien imaginer que la répétition de propos péjoratifs, ça peut constituer une faute parce que ça porte atteinte à l'image, ça porte atteinte au crédit d'une personnalité, d'une
société. Je vais vous faire écouter un petit extrait du complément d'enquête que France 2 a consacré à Vincent Bolloré. Il a d'abord été diffusé au printemps, le groupe Bolloré n'a pas réagi, il a été rediffusé cet été et là, le groupe Bolloré exige 50 millions d'euros de réparation et attaque au tribunal de commerce de Paris.
J'en veux au Bolloré parce que il n'a pas voulu prendre le temps. Donc ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas vraiment aux gens qui fournissent ce travail, les équipements. Et voici, regarde un peu mes mains. On dirait que nous sommes les animaux de brousse. C'est comme si ce n'était pas humain qu'il voie vraiment ce que ses partenaires nous font.
Voilà, témoignage d'un ouvrier agricole qui travaille en Afrique sur une plantation détenue par le groupe Bolloré. C'est donc la répétition, c'est-à-dire la rediffusion de ce témoignage qui a suscité le tribunal de commerce saisi par Vincent Bolloré. Je cite le communiqué, pour mettre un terme à cette campagne insidieuse. C'est-à-dire que c'est vraiment la répétition qui a provoqué la colère du groupe Bolloré. Est-ce qu'en l'état, on peut attaquer pour répétition et pour rediffusion ?
En l'état, non. Donc, si vous voulez, l'initiative de Vincent Bolloré, c'est plus une posture de communication, c'est une façon d'intimider, voilà, le média en cause. Mais juridiquement, il n'a pas de chance quasiment d'obtenir gain de cause. Demain, si ces amendements passaient, il aurait un boulevard pour lancer de telles procédures.
Alors, demain, justement, tout le problème à l'heure d'Internet, c'est que ça reste. Les images, les sons, les mots, tout reste, ça vous colle à la réputation, ça peut créer des ravages dramatiques. Et c'est là aussi toute la question, c'est le délai de prescription. Et c'est là aussi qu'intervient cette loi.
Exactement. Il y a un principe fondamental depuis l'origine, depuis la loi sur la presse, qui est qu'on attaque un contenu journalistique dans les 3 mois de sa publication. Et lorsque Internet a été créé, on s'est posé la question de savoir comment on allait gérer ce délai. La Cour de cassation a considéré que c'était dans les 3 mois de la mise en ligne. Aujourd'hui, les amendements prévoient que tant que l'article n'est pas retiré, on peut attaquer un article en justice. Donc, en clair, si vous voulez éviter des poursuites, ça veut dire qu'il faut carrément supprimer l'information sur le net.
C'est-à-dire que tant que l'Instant M est en podcast, France Inter peut être attaqué. Tant que Cache Investigation est en replay, France 2 peut être attaqué.
Exactement.
Et ça veut dire que si France 2 crée une chaîne YouTube comme ils l'ont fait pour leur doc du mardi soir et que ça reste en ligne, alors là pour le coup, pour l'éternité, ils peuvent être attaqués tout le temps. Mais ça veut dire qu'un journaliste va devoir conserver les preuves d'une enquête pendant 15 ans, pendant 20 ans, parce qu'à tout moment, il est susceptible de devoir se justifier et refaire la preuve de ce qu'il a écrit.
Absolument. Et ça, c'est, si vous voulez, c'est une pression, c'est une épée de Damoclès sur les médias en ligne en particulier, qui est particulièrement insupportable. En plus, ça introduit une discrimination qui est fondamentale entre le média Internet et les médias, par exemple les médias écrits. Prenons un même article qui serait publié sur un média écrit et sur Mediapart, par exemple. Mediapart serait susceptible d'engager sa responsabilité ad vitam aeternam tant que l'article reste en ligne.
Parce que ça va multiplier les procès, cette histoire.
Inévitablement.
Inévitablement.
Inévitablement. Non seulement ça va multiplier les procès, mais en plus on va entrer dans une zone... On a devant nous une période de 10 ans d'imprévisibilité, d'insécurité juridique totale, parce que on ne saura pas ce qui est une faute et ce qui ne l'est pas. On ne saura pas comment va être traité ce délai de prescription. Donc, on va avoir des questions prioritaires de constitutionnalité, des saisines de la Cour européenne des droits de l'homme, etc.
Parce qu'il y a encore un élément de ces amendements qu'on n'a pas commenté ici, mais c'est-à-dire que jusqu'à présent, si dans mon émission, je traite telle personne de grosse vache, telle autre de facho, ou tel journaliste de vendu au grand capital. La personne en question peut relever mes propos et les porter devant le tribunal. Alors, soit c'est injure, soit c'est diffamation, etc. Mais à partir de maintenant, si cette loi est votée, on peut m'attaquer sans fournir mes propos au tribunal.
Voilà, il y a une règle de base, si vous voulez, en matière de presse, qui est qu'on doit préciser exactement quelle est l'infraction poursuivie, quels sont les propos qui sont poursuivis. Cette règle de base, c'est une garantie de procédure qui a été validée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, qui a été validée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré que c'était constitutionnel. Aujourd'hui, cette règle, elle est remise en cause par le Sénat, qui considère que, bah, ma foi, on attaque, et puis ensuite, on verra bien quels sont les propos poursuivis et sur quelles qualifications. Donc, on a, là encore, une garantie de procédure qui est supprimée, alors que il y a quand même 3 ans, c'est récent, le Conseil constitutionnel a dit que c'était une garantie constitutionnelle de la liberté d'expression.
C'est ça, donc c'est à moi de faire la preuve que je n'ai pas dénigré, que je n'ai pas insulté ou diffamé quelqu'un qui m'attaque sans préciser de quel propos il s'agit. En même temps, l'origine, l'esprit, la volonté de départ de ce texte, c'était de pouvoir agir enfin sur les abus de la liberté d'expression, les déferlantes qu'on peut avoir de dénigrement sur le web, qui sont souvent édités sur des sites hébergés à l'étranger, sur lesquels la loi finalement a très peu de pouvoir mettre.
Mais oui, en réalité, le Sénat se trompe de cible, puisqu'il renforce la répression sur des intervenants qui s'expriment en toute transparence, comme les médias. Mais le problème du net, c'est l'anonymat. Voilà. C'est donc là-dessus qu'il faut intervenir. Or, les amendements en cause n'interviennent absolument pas sur la question de l'anonymat.
Ben non.
Donc, il y a des idées, il y a des idées à imaginer, des moyens éventuellement de faire en sorte que l'anonymat ne permette pas tout le temps de se réfugier derrière. Derrière des paravents artificiels, mais c'est là-dessus qu'il faut agir et le Sénat n'agit pas du tout
c'est
là-dessus.
Ça, c'est-à-dire que rien ne permet là-dedans de débusquer les anonymes ou de les contraindre. Rien. En revanche, les journalistes qui sont tout à fait identifiés, exposés et qui engagent leur signature, là, ils sont repérés et pour le coup, c'est eux qui font les frais de cette réforme. C'est en examen en ce moment au Sénat, donc c'est une affaire à suivre et l'Instant M va continuer de la suivre, donc vous reviendrez si ça doit évoluer. Merci beaucoup, maître. C'est la fin de l'Instant M. Bonjour Elie Rébéi.
Bonjour Sonette Villers. Alors, étiez-vous une craque en maths?
Je sens que oui. Non, moi non, pas du tout. À partir de la quatrième, ça a commencé à méchamment dégringoler.
Moi, ça a commencé en sixième, vous savez. La nullité en maths est-elle une fatalité? N'hésitez pas à témoigner de votre malaise avec les maths, de votre difficulté à comprendre le raisonnement mathématique, ou bien de votre incompréhension face à cette matière que certains considèrent comme un art. N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000.
Voilà, et on sera là pour vous dire qu'on peut quand même faire des choses dans la vie, par exemple animer des émissions. Exactement. Sur France Inter.